Je voudrais pour commencer exprimer devant vous ma honte, ma très grande honte devant ce que nous avons entendu ce matin, parce que ce que nous avons entendu dépasse de loin ce que nous attendions. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église a travaillé avec une très grande indépendance. Elle a travaillé très sérieusement en faisant appel à bon nombre de compétences dans les sciences humaines, sociologie, histoire, également dans les sciences sacrées, théologie, droit canonique, également s'appuyant sur un certain nombre d'instituts, d'études, de sociologie, qui lui ont permis de nous donner un panorama très clair, sans doute incomplet, mais en tout cas très clair, qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Grande honte, effroi, beaucoup de tristesse. Et mes premières pensées, bien sûr, vont aux victimes, aux très nombreuses victimes. Vous avez eu les chiffres ce matin, 216 000 victimes de prêtres, de religieux et de religieuses, 330 000 si on y ajoute les laïcs qui exercent une responsabilité dans notre institution, tout particulièrement dans l'enseignement catholique, les mouvements de jeunes, les aumôneries. Je crois que nous entendons leur voix, nous entendons leurs cris. Je suppose que pour eux, c'est également une journée douloureuse, même si les victimes, sans doute aussi, arrivent au bout d'un long chemin de reconnaissance de leur statut de victime, parce que, durant 3 ans, une commission indépendante, à la demande des évêques de France, je le rappelle, c'est nous, l'Église, qui avons souhaité cette commission pour faire toute la vérité. Il se voit enfin reconnu, entendu. Un de mes confrères évêques, l'évêque auxiliaire de Paris, qui a en charge le suivi des affaires d'abus sexuels sur mineurs pour le diocèse de Paris, disait que les agressions sexuelles dans l'Église ont une spécificité, c'est qu'à l'abus de pouvoir, à l'abus d'autorité, à l'abus psychologique s'ajoute un abus supplémentaire qui est l'abus spirituel. Le prêtre, le religieux, pour des enfants, pour des jeunes, est celui par lequel passe l'annonce de la foi. Il est cet adulte qui a reçu mission d'être comme la présence de Jésus-Christ au milieu de sa communauté, que ce soit un mouvement de jeunesse, une équipe d'aumônerie, que ce soit une paroisse. Il y a forcément une certaine admiration de l'enfant et du jeune pour celui qui a mission de donner la vie du Christ par le sacrement de l'Eucharistie, par le sacrement du pardon et par tous les autres sacrements, qui commente la parole de Dieu, qui dit ce qu'il faut croire et comment vivre pour être fidèle à Jésus. Voilà que ces hommes-là sont ceux-là même qui atteignent à leur innocence et qui les brisent à jamais. Parce que, et Jean-Marc Sauvé le rappelait ce matin, l'abus sexuel sur mineurs, c'est d'abord une atteinte à cet interdit fondamental qui structure toutes les sociétés, qui est l'interdit fondamental qui est dans le décalogue, le « tu ne tueras pas ». L'atteinte, l'abus sexuel sur mineurs, tue l'humanité, porte atteinte à l'être même. Et quand vous accompagnez des victimes, M. Pillet pourra vous en parler tout à l'heure, j'en ai rencontré quelques-unes, ce sont des personnes qui s'engagent sur un très très long chemin de reconstruction et qui se retrouvent déstructurées et qui parfois ont du mal à retrouver un équilibre humain, un équilibre psychologique, un équilibre affectif, un équilibre spirituelle. Donc voilà, ma première pensée va aux victimes. Ma gratitude va à la SIAZ, à cette commission indépendante, que nous les évêques nous avons voulu. Parce qu'ils sont allés le plus possible au fond des choses. Et le rapport, je ne sais pas si vous l'avez consulté sur Internet, montre bien qu'ils ont travaillé en toute indépendance et la teneur du retour du rapport ce matin sur KTO, de par la vérité et la dureté même des propos tenus, je pense à l'intervention de M. François Deveau, qui avait été le président de l'association Parole Libérée à Lyon, montre bien que les choses ont été dites sans fard. Pour l'Église, c'est également un grand choc dans toutes les paroisses de France. Dimanche dernier, a été lu un communiqué pour préparer les catholiques à la réception de ce rapport et pour les inviter à accueillir ce rapport pour ce qu'il est. Parce que l'heure n'est pas à remettre en cause telle méthode de comptage, telle analyse, telle recommandation. Les choses ont été faites suffisamment scientifiquement et sérieusement pour que nous prenions ce qui nous est dit pour argent comptant, d'une certaine manière, et pour se dire maintenant comment construire ou reconstruire à partir de tout cela. Donc, c'est aussi une invitation pour moi à ce que les communautés catholiques du diocèse, paroisses, services et mouvements, et leurs responsables s'emparent de ce rapport, le travail, et regardent comment pour eux-mêmes le prendre en compte. Le prendre en compte, ça veut dire comment est-ce que une paroisse, un mouvement de jeunes, une aumônerie va pouvoir devenir une maison sûre, un lieu où, au nom de l'Évangile, on fait attention aux petits, tout particulièrement à l'enfant et aux jeunes dont on a la charge. C'est aussi un appel que j'adresse à mes frères prêtres, à mes frères religieux, à mes sœurs religieuses qui sont présentes dans le diocèse. Une large, très grande majorité de prêtres, de religieux, de religieuses, et j'en suis témoin chaque jour dans le diocèse, sont donnés généreusement à leur mission. Ne comptent pas leurs heures, ne comptent pas leurs jours pour accompagner les malades, être présents aux plus pauvres, rencontrer les enfants et les jeunes pour leur faire découvrir la beauté de l'Évangile et cet appel à la fraternité qui retentit dans l'Évangile. Et c'est vrai que le péché de quelques-uns retombe forcément sur tout le monde. Je voudrais inviter mes frères prêtres, mes frères religieux, mes sœurs religieuses à la confiance de leur évêque, et puis à mes encouragements pour qu'ils tiennent bon en ces jours qui seront difficiles, périlleux pour eux. Et en même temps, c'est un appel qui nous est adressé aux prêtres, à l'évêque que je suis, d'exercer notre ministère de telle sorte que nous puissions le vivre d'une manière familiale, fraternelle. Je crois que l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité, qui conduit parfois les plus pervers à des abus sexuels, peut être aussi dû à la manière même dont les prêtres, les évêques vivent leur ministère. Nous agissons au nom du Christ dans les communautés, et c'est vrai que, de par notre statut, nous sommes parfois mis à part, parfois mis sur un pinacle, et qu'il est une manière d'exercer notre autorité qui doit être une autorité de service. Et cela signifie sans doute que nous regardions dans l'Église catholique la manière dont nous vivons les responsabilités, dont nous vivons notre ministère. C'est peut-être l'occasion aussi, ici, de vous dire que cela fait maintenant 20 ans que l'Église catholique en France s'est engagée sur un chemin de purification, si je puis dire. Les années 2000, c'est l'époque du procès de Mgr Picant, qui était évêque de Bayeux-Lisieux, qui a été condamné pour ne pas avoir révélé à la justice des faits d'abus. Et ça a été un électrochoc qui, je crois, a fait prendre conscience à l'Église de la profonde gravité de ces faits et de ce qu'ils provoquaient sur les victimes. Également une prise de conscience d'un dysfonctionnement, et j'y reviendrai, des autorités ecclésiales. Parce qu'il est clair, et le rapport l'a établi, que durant de nombreuses années, ces faits ont été minimisés. On n'a pas voulu écouter les victimes. On a parfois déplacé les prêtres de poste en poste quand il y avait des rumeurs ou des bruits. On a parfois étouffé des affaires. Et on a compté sur le silence des victimes pour que, voilà, l'institution ne soit pas atteinte. Je crois que le rapport le met bien en lumière et je crois qu'il nous faut le reconnaître aujourd'hui. Donc les années 2000, ça a été, je crois, un peu cette prise de conscience-là aussi. Et à partir des années 2000, un certain nombre de choses ont été mises en place dans le domaine, entre autres, de la prévention. Je me souviens, j'étais alors jeune prêtre de journée que nous avions eue dans mon diocèse d'origine, de formation et de prévention, également pour les animateurs et les acteurs de la pastorale des enfants et des jeunes. Mais sans doute qu'à l'époque, malgré tout cela, on n'avait pas encore bien saisi que le traumatisme durait. Et c'est vrai que l'affaire Prénat a révélé que c'était parfois des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années après qu'une victime soudain se retrouvait face à l'abus qu'elle avait commis, comprenait enfin d'où venait le malaise qui l'habitait, le mal-être qui était le sien. Parce que la conscience étouffe ce qui fait souffrir. Et en 2016, dans le séisme qu'a été, il faut bien le dire, l'affaire de Lyon, les évêques se sont mis à travailler. 2016, ensuite 2018, ça a été la commande du rapport de la SIAZ. Et puis ça a été en mars dernier un vote solennel des évêques de France sur 5 mesures. Une première mesure qui est la dimension de la reconnaissance, reconnaître nos responsabilités, reconnaître nos erreurs, nos omissions graves, nos mauvaises décisions, et en même temps faire mémoire de ces victimes, de toutes ces erreurs et omissions. Et donc on a voté la création d'un lieu mémoriel national, qui sera sans doute à Lourdes, pour l'instant rien n'est encore fixé, mais voilà, qui soit plus qu'une stèle, mais qui soit vraiment un lieu qui permette de, à la fois de faire mémoire des victimes, et qui soit aussi un lieu où on puisse étudier le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans l'Église ? De manière à ce que nous puissions travailler sur la manière dont l'Église s'organise, dont l'Église est gouvernée. Et puis, également, reconnaissance, ça passe pour nous chrétiens par la prière. Confier au Seigneur les victimes, confier au Seigneur aussi les acteurs de ces faits pour qu'ils s'ouvrent à la miséricorde. Deuxième volet, c'est le volet justice. Alors vous savez que maintenant, depuis très longtemps maintenant, depuis au moins une vingtaine d'années, peut-être que Jean-Luc pourra donner la date plus précise, il est automatique que lorsque nous avons un signalement d'une victime, nous fassions un signalement au procureur de la République. Ce n'est pas à nous de déterminer, de faire l'enquête pour déterminer s'il y a eu ou non abus. Ce n'est pas à nous de déterminer si les faits sont prescrits ou non. C'est à la justice de le faire. Et quels que soient les faits qui nous sont révélés, quelle que soit leur nature ou l'année à laquelle ils ont été faits, c'est toujours le signalement au procureur de la République. Et puis, nous sommes en train de créer un tribunal pénal national. Jusqu'à aujourd'hui, ces affaires sont traitées dans les diocèses. Or, les diocèses ne sont pas équipés suffisamment pour traiter en droit canonique ce genre d'affaires, qui nécessite une bonne connaissance et des personnels de justice ecclésiastique bien formés. Et puis aussi, un diocèse, c'est petit. Et l'évêque étant dans le diocèse celui qui à la fois enclenche la procédure et traite la procédure, il est bon que tout cela puisse être fait à distance pour éviter les conflits d'intérêts ou les suspicions de connivence. Donc voilà, il va y avoir un tribunal pénal national pour traiter désormais ces affaires. Ensuite, un volet prévention, formation renforcée des prêtres et des acteurs pastoraux et des séminaristes, c'est-à-dire des jeunes qui se préparent à devenir prêtres. Également le suivi et l'accompagnement des coupables, parce qu'il y a une peine civile, quand il y a un procès civil et que les faits ne sont pas prescrits. Il y a une procédure canonique. Procédure canonique qui peut aboutir à des sanctions, la plus grave d'entre elles étant d'être relevée du ministère sacerdotal, c'est-à-dire d'être ce qu'on appelle libéré des obligations du ministère de prêtre. Mais une fois cela fait, que deviennent les coupables? Et donc l'Église a aussi à réfléchir à la manière dont on va accompagner les coupables de ces faits. Et au niveau de l'Église de France, on a décidé également la création d'un conseil national et d'un service national chargé d'accompagner cette question des abus sexuels sur mineurs dans le domaine de la prévention, de l'écoute des victimes et de l'accompagnement des victimes. Et puis il y a le soutien des victimes avec le renforcement de l'accueil et de l'écoute des personnes victimes. Également, la contribution financière personnalisée en fonction des besoins d'assistance. On a beaucoup travaillé entre évêques sur la manière de contribuer financièrement à la construction, à la reconstruction des victimes. Et donc, il y aura une instance nationale de créer qui, en fonction des besoins de chacune des victimes pour sa reconstruction, évaluera avec elle le soutien financier. Voilà, ça c'est au plan national. Et puis, je vais prendre quelques minutes avant de laisser la parole à M. Pillet sur ce que nous avons cherché à mettre en œuvre dans le diocèse. Alors, je ne vais pas remonter à 2000, je vais remonter à 2016. Donc en 2016, le 8 juin 2016, une cellule régionale d'accueil et d'écoute des victimes a été constituée à l'intention de victimes d'abus sexuels mineurs au moment des faits, commis par des personnes ayant reçu une mission ecclésiale, prêtres mais également laïcs. Cette cellule est composée d'un ancien magistrat, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un avocat et d'une infirmière scolaire. Elle concerne les 5 diocèses des Pays de la Loire, donc c'est la région des Pays de la Loire. Et lorsqu'elle est sollicitée, elle reçoit la victime et rend compte de ses démarches à l'évêque. Et puis à cette première mission, assez rapidement, une deuxième leur a été ajoutée, qui est celle de pouvoir aller à la rencontre des paroisses, des mouvements, des groupes de catholiques, pour sensibiliser le plus grand nombre à cette question. Les liens entre le procureur et l'évêque de Nantes ont été renforcés. Le signalement des cas est aujourd'hui systématique. Et nous sommes en train de travailler à la mise en place d'une convention entre l'Église catholique et le diocèse de Nantes pour fluidifier encore mieux, encore davantage, les relations avec le procureur, de manière à ce que les règles soient bien établies entre procureur de Nantes et Église catholique sur la manière dont nous travaillons ensemble. Et dans l'enseignement catholique, depuis de nombreuses années, dans la formation des enseignants, un module est prévu. Et cette dimension est prise en compte dans le discernement de recrutement des enseignants et des personnels de l'enseignement catholique. Alors, il y a eu en mars 2019, dans le diocèse de Nantes, avec 170 personnes, une journée diocésaine qui a été animée par le père Stéphane Joulin, psychothérapeute spécialisé dans le traitement des agressions sexuelles sur mineurs. Et un certain nombre de réunions ont lieu régulièrement dans les paroisses du diocèse depuis 3 ans, qui s'intitulent « Luttons contre la pédophilie ». Des réunions se sont tenues à Saint-Nazaire, à la Chapelle-sur-Erdre, à Nantes-Est, à Nantes-Ouest, à Nantes-Sud, enfin bref. Et puis, il devient aujourd'hui quasi systématique de demander aux catéchistes et animateurs de jeunes un extrait de casier judiciaire. Et puis donc, le week-end dernier, nous avons dans les paroisses du diocèse déployé un temps de sensibilisation à ce rapport. Et à venir, nous aurons le 30 novembre et le 1er décembre une journée pour les prêtres sur le thème de l'accompagnement spirituel et des dérives de l'accompagnement spirituel, parce qu'un certain nombre d'abus, sans parler d'abus sexuels, mais d'abus d'autorité, d'abus de pouvoir, se déroulent par l'entremise de ces accompagnements spirituels. Et puis nous avons une association dans le diocèse qui s'appelle Tabor 44, qui coordonne les activités liées à la pastorale des jeunes du diocèse, tout ce qui est camp, centre de vacances et de loisirs, temps de rassemblement, qui, en novembre, devrait s'élargir à un volet protection de l'enfance. Trotte dans ma tête un projet qui pourrait aller vers la création d'un pôle diocésain de protection des enfants et des jeunes, où pourraient travailler ensemble la cellule écoute, vigilance, pédocriminalité, l'association Tabor 44, qui porte tout l'aspect administratif et juridique des temps forts d'enfants et de jeunes, et puis aussi une association que nous avons dans le diocèse qui s'appelle Chrétiens face à l'inceste et qui, elle, se préoccupe plus particulièrement, évidemment, des cas d'abus sexuels sur les mineurs dans le cadre des familles. Voilà, alors pour terminer, simplement redire ici ma désolation, et je crois que c'est la désolation des catholiques du diocèse et des catholiques en général, catholiques de France, rappeler ici mon engagement et l'engagement de tous les évêques à continuer le travail que nous avons commencé en 2016. Et le rapport douloureux, violent que nous avons reçu ce matin est un peu comme un aiguillon qui nous encourage à poursuivre le combat. Dire aussi que ce combat, il est le combat de toute l'Église, baptisée, membre du corps du Christ qu'est l'Église. Nous avons tous à porter ce poids ensemble, et c'est ensemble, chacun avec les responsabilités qui sont les nôtres, c'est ensemble que nous avons à faire en sorte que notre Église soit une maison sûre. Et notre Église, je crois qu'elle a quelque chose à apporter à la société et au monde d'aujourd'hui, et peut-être que dans ce combat qu'elle engage, et qu'elle a déjà engagé, contre la pédocriminalité, elle peut être aussi un moyen de faire en sorte que partout dans la société, ce combat soit engagé. Et puis l'Église, elle est engagée sur le front de la santé, elle est engagée sur le front de la solidarité, contre la précarité pour la solidarité. Elle est engagée sur le front de l'éducation, sur un certain nombre de fronts qui contribuent au bien commun et qui contribuent à ce que notre société soit une société de fraternité contre tout ce qui la divise et la disperse. Je crois que c'est un formidable encouragement à continuer notre engagement à plus de fraternité et de justice dans l'Église, mais dans la société.